Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur le podcast de Diabète 66. Le podcast de Diabète 66, c'est le podcast hebdomadaire qui décrypte avec vous l'actualité sur le diabète. Ce podcast vous est présenté par l'équipe médicale du service endocrinologie du centre hospitalier de Perpignan, dirigé par le docteur Muriel Bénichou, accompagné par les docteurs Amina Radaoui, docteur Nelly Montignera et docteur Céline Hyde.
Bonjour à toutes et à tous, je suis le docteur Muriel Bénichou, chef du service d'endocrinologie du centre hospitalier de Perpignan. Bienvenue dans cette nouvelle émission consacrée au compte-rendu du congrès de la Société française de diabétologie qui s'est tenu la semaine dernière. Lors de ce congrès, il a été question longuement des nouveaux traitements du diabète de type 1, notamment l'immunothérapie, la greffe d'îlot et les pancréas artificiels. Pour le diabète de type 2, de nombreuses sessions autour des inhibiteurs du SGLT2, de par notamment l'arrivée d'une deuxième molécule, l'empagliflozine ou Jardiance, sur le marché français. Enfin, évidemment, l'actualité, c'est aussi diabète et Covid-19, avec de nombreuses communications autour de cette thématique. Je démarrerai par un exposé d'une quinzaine de minutes, puis je répondrai aux questions qui m'ont été posées durant la semaine, avant d'aborder les questions en direct. Je vous le disais, il a été question largement des nouveaux traitements du diabète de type 1. Donc tout d'abord, des avancées concernant l'immunothérapie, avec des communications du spécialiste de la question, Roberto Malone, qui nous a présenté les dernières études prometteuses sur notamment l'intérêt de l'utilisation des anticorps anti-CD3, ce qu'on appelle le teplizumab, et de la vaccination également sur la prévention du diabète de type 1. Par immunothérapie, je vous rappelle que l'immunothérapie chez le patient diabétique de type 1, ce sont des traitements soit par anticorps, notamment anticorps monoclonal, type anti-CD3, ou par vaccination. Alors le terme vaccination est un mauvais terme parce que le but n'est pas de booster, mais au contraire de neutraliser le système immunitaire. Ces fragments d'antigènes type insuline ou GAD ont été utilisés dans la prévention du diabète de type 1. Concernant ces études sur les anti-CD3, Roberto Malone a présenté une étude chez un certain nombre de diabétiques de type 1 nouvellement diagnostiqués qui ont bénéficié d'un traitement par anti-CD3 versus des patients qui étaient sous placebo. Et chez les patients sous anti-CD3, on a vu réapparaître un certain degré d'insulinosécrétion reflété par un taux de peptide C. Le peptide C, c'est ce qui permet d'apprécier l'insulinosécrétion par le pancréas. Ce taux de peptide C chez ces patients remontait au-dessus de 0,4 nanogrammes par litre. Et les besoins en insuline de ces patients étaient nettement diminués, puisqu'habituellement chez un patient diabétique, on est autour de 0,5 unités kilojour. Et là, les patients avaient moins de 0,25 unités kilojour d'insuline. Les anti-CD3, donc le teplizumab, a également été testé en prévention du diabète de type 1, c'est-à-dire chez des jeunes diabétiques de type 1, chez des jeunes patients, qui n'étaient pas encore diabétiques, mais qui avaient déjà dans leur sérum des auto-anticorps, donc des anticorps anti-GAD, des anticorps anti-ILO ou anti-ZNT8. Et chez ces patients pré-diabétiques, l'utilisation des anticorps anti-CD3 permettait de retarder d'environ 2 ans l'apparition du diabète de type 1. Donc, cette étude très prometteuse a été suivie par une étude en cours actuellement chez des enfants de 8 à 17 ans, donc l'étude PROTECT. Et si cette étude PROTECT confirme les résultats de cette première étude de prévention avec les anticorps anti-CD3, il se pourrait que la FDA émette un feu vert, un avis favorable pour l'utilisation des anticorps anti-CD3 chez des sujets jeunes, notamment des enfants, en état de prédiabète. Concernant la vaccination, donc l'utilisation des fragments antigènes, cette vaccination a été testée à la fois chez des patients diabétiques, des patients prédiabétiques, pardon, qui avaient des anticorps positifs, et chez des patients qui n'avaient pas encore d'anticorps, mais qui avaient un risque génétique élevé avec un typage HLA hautement à risque de diabète. Et donc, autant la vaccination ne fonctionne pas, en tout cas telle qu'elle a été présentée par l'étude, chez les patients qui ont déjà des anticorps, autrement dit chez ceux qui ont déjà une réponse immunitaire, parce qu'on pourrait considérer que c'est déjà trop tard pour les traiter par cette vaccination. En revanche, chez les patients donc, qui étaient simplement à risque de diabète de type 1, qui n'avaient pas encore d'anticorps dans leur sérum, et bien ceci, enfin, l'utilisation de ces anticorps anti-CD3 était efficace et chez ces patients ne voyaient pas apparaître ni d'auto-anticorps ni de diabète de type 1. Voilà, donc c'est résultat prometteur à la fois avec les anticorps anti-CD3 et avec la vaccination, avec donc l'utilisation d'antigènes, eh bien, pourrait, si des études le confirment, déboucher vraiment sur des utilisations en pratique clinique. Il y a eu également du nouveau dans la grève d'îlot, avec une avancée majeure concernant la grève d'îlot, puisque vous savez peut-être qu'elle vient d'être reconnue par un arrêté ministériel de mars 2021 comme une activité accessible en soins courants, ce qui était d'ailleurs déjà le cas dans un certain nombre de pays européens. Donc cet arrêté dont on attend la confirmation par la parution au journal officiel fait suite à un avis favorable de la Haute Autorité de Santé qui a reconnu l'activité de grève d'îlot comme améliorant le service rendu, comme une amélioration de service rendu de niveau 3 par rapport à l'insulinothérapie intensifiée et à la greffe de pancréas organe. Alors, je vous rappelle ce que c'est que la greffe d'îlot. La greffe d'îlot, c'est l'infusion, en fait, l'injection, en fait, d'îlot par un cathétérisme de la veine porte dans le foie. Pour que cette greffe soit efficace, il faut injecter au moins 11 000 îlots par kilo de receveur, ce qui implique l'utilisation de 2 à 3 pancréas de donneur. Donc vous voyez un petit peu la difficulté, puisqu'on manque cruellement évidemment de donneurs. Néanmoins, la HAS a donc posé des indications précises pour donc l'utilisation de la greffe d'îlot en pratique courante. Donc concernant la greffe, elle concerne premièrement les patients diabétiques de type 1 qui ont eu un diabète chroniquement instable avec une fonction rénale normale. La deuxième indication, c'est les patients diabétiques de type 1 en insuffisance rénale terminale en attente de greffe, de transplantation rénale. Et la troisième indication, c'est les patients diabétiques de type 1 avec un greffon rénal fonctionnel, mais dont l'hémoglobine glycée reste supérieure à 7% ou qui font des hypoglycémies sévères. Alors, qu'appelle-t-on diabète de type 1 chroniquement instable? Il ne suffit pas de le dire, hein, il faut que ça réponde à des critères bien précis. Pour qu'un diabète de type 1 soit considéré comme chroniquement instable, il faut que le patient ait une variabilité glycémique irréductible, c'est-à-dire qu'il ait ce qu'on appelle un coefficient de variabilité supérieur à 36%, donc qu'il fasse des alternances d'hypo et d'hyperglycémie, pendant au moins 12 mois. Et ce, malgré une prise en charge optimale par une équipe pluriprofessionnelle formée aux nouvelles technologies, donc aux pompes et aux capteurs. Il faut que le patient ait été formé à l'insulinothérapie fonctionnelle et qu'il sache gérer les situations d'hypoglycémie et qu'ils aient déjà testé les pompes connectées, voire la boucle fermée, et que malgré ces pompes connectées ou la boucle fermée, eh bien, ce problème de variabilité n'est pas réglé. Et il ne s'agit pas d'avoir simplement une variabilité glycémique, il faut que cette variabilité glycémique, donc irréductible, ait des conséquences cliniques et métaboliques imprévisibles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut qu'il fasse au moins deux hypoglycémies sévères dans les 12 derniers mois, ou bien une hypoglycémie sévère qui met en jeu le pronostic vital du patient, c'est-à-dire un coma hypoglycémique ou bien des convulsions ou des événements traumatiques liés à cette hypoglycémie. Un patient qui ne fait plus d'hypoglycémie, mais qui a des antécédents d'hypoglycémie sévère et qui n'en fait plus parce qu'il utilise ce qu'on appelle la stratégie d'hyperglycémie chronique, c'est-à-dire qu'il se met en hyperglycémie pour éviter par peur des hypoglycémies, celui-là pourrait également être éligible à un traitement par greffe d'hyoïde. Donc si le patient répond à ces critères, il sera à ce moment-là adressé à une équipe pluriprofessionnelle de greffe autorisée par l'Agence régionale de santé, c'est-à-dire répondant à un certain nombre de cahiers des charges, enfin un cahier des charges assez lourd. Et si cette équipe valide l'indication de greffe pour le patient bénéficiera à ce moment-là d'un bilan pré-greffe. Ce bilan pré-greffe permettra de voir s'il y a des contre-indications, notamment à l'utilisation d'un traitement par immunosuppresseur, puisque je vous rappelle que la greffe d'hyoïde, c'est une allogreffe dans la plupart des cas, et que donc cette allogreffe nécessite un traitement immunosuppresseur au long cours. Et ensuite, si le bilan pré-greffe ne retrouve pas de contre-indication, le patient passera à ce moment-là en réunion de concertation pluridisciplinaire, d'inscription sur la liste d'attente, et ensuite le patient pourra être placé sur la liste d'attente. Donc actuellement, les centres qui font des greffes, c'est Grenoble, Montpellier, Lille, Paris, Toulouse, Nantes, Strasbourg et Nancy. Enfin, évidemment, de nombreuses communications sur les nouveaux, enfin sur le pancréas artificiel, avec trois dispositifs qui disposent actuellement du marquage CE et qui ont donc déposé un dossier de remboursement, qui devrait permettre leur commercialisation et leur remboursement en France courant 2021. Donc, ça arrive. Donc, on a actuellement trois systèmes, comme je vous l'ai dit, le système Minimed 780G, qui est un système à deux éléments, constitué d'une pompe 780G qui héberge l'algorithme et d'un capteur qui est le capteur Sensor 3. Ce système a le marquage CE chez l'adulte et chez l'enfant dès l'âge de 7 ans. Le deuxième système, c'est le système Tandem Control IQ, qui est également un système à deux éléments, avec la pompe Tandem T-Slim, qui héberge également l'algorithme, et un capteur, le Dexcom G6, qui possède l'avantage par rapport au capteur Sensor 3 de ne pas nécessiter de calibration et d'être utilisable 10 jours au lieu de 7 pour le capteur Sensor 3. Ce système Tandem Control IQ a le marquage CE pour l'adulte et pour l'enfant dès l'âge de 6 ans. Enfin, le troisième système, le système français Diabeloop DBLG1, qui lui est un système à trois éléments avec une pompe Canilido, un capteur Dexcom G6 et un smartphone qui héberge l'algorithme. Donc ce système, à la différence des deux autres, n'a le marquage CE que chez l'adulte. Il y a des études en cours chez l'enfant, mais pour l'instant, il n'a pas le marquage CE chez l'enfant. Donc, évidemment, ces trois systèmes ont fait l'objet de nombreuses études contrôlées, randomisées, pour apprécier à la fois l'efficacité et la sécurité d'emploi de ces systèmes. L'ensemble de ces systèmes en moyenne, permettent une amélioration du temps passé dans la cible, ce qu'on appelle le timing range, d'en moyenne une augmentation de 10%, ce qui fait entre 2h15 et 2h30 par jour de plus dans la cible. Également une augmentation, une diminution de 9% du temps passé au-dessus de la cible, c'est-à-dire une diminution de 2 heures du temps passé au-dessus de 1,80 g, et une diminution de moitié du temps passé en hypoglycémie, c'est-à-dire une diminution de 20 à 30 minutes en moyenne de temps passé en hypoglycémie. Une diminution varie selon les études entre d'hémoglobine glycée entre moins 0,15 et moins 0,4 points. Tout ça en toute sécurité, puisqu'il n'y a pas eu dans toutes ces études ni de problème d'hypoglycémie sévère, ni de décompensation acido-cétosique. Alors, ces systèmes qui donc vont arriver donc et être remboursés courant 2021 ne seront pas utilisables, en tout cas pas tout de suite chez tous les patients. Il y aura un cadre assez strict au départ de remboursement. Ça devrait concerner essentiellement les patients diabétiques de type 1, donc à partir de l'âge de 6 ou 7 ans en fonction des systèmes, diabétiques depuis au moins 6 mois, qui a une bonne maîtrise de la pompe à insuline et des capteurs, qui est formé au comptage des glucides, qui s'engage à respecter un parcours de soins spécifique, notamment concernant le suivi, notamment la première année, et qui, malgré une prise en charge adaptée, n'arrive pas à obtenir un bon équilibre glycémique. Donc les patients, ce qui va être retenu, c'est probablement, en tout cas au départ, c'est une hémoglobine glycée au-dessus de 8%. Ça veut dire que, a priori, au départ, les patients qui auront une hémoglobine glycée au-dessous de 8%, même s'ils font des hypos sévères, ils ne pourront pas être candidats à ce type de système. Donc, j'en ai fini pour le diabète de type 1. Concernant le diabète de type 2, comme je vous l'ai dit, il a été surtout question des molécules qui, en plus de leur efficacité métabolique, présentent une protection cardio-rénale, notamment donc les inhibiteurs du SGLT2. Alors, en quelques mots, les inhibiteurs du SGLT2, c'est des molécules qui sont arrivées en France en avril 2020, mais qui étaient déjà commercialisées depuis de nombreuses années ailleurs, en tout cas aux États-Unis et dans certains autres pays européens, et qui ont un mécanisme original, puisqu'ils agissent en quelque sorte en activant le robinet de sortie du sucre, c'est-à-dire en favorisant l'élimination urinaire du sucre, et donc en créant une glycosurie. Donc ce mécanisme est donc indépendant de l'insuline, ce qui montre bien que ce produit peut être utilisable à la fois chez les patients qui ne sont pas encore insulinopéniques, mais également chez les patients sous insuline, les patients diabétiques de type 2, hein, bien entendu. Donc le premier, comme je vous l'ai dit, à être arrivé sur le marché, c'est la dapagliflozine, le Forxiga, et là il y a une deuxième molécule qui arrive, l'empagliflozine ou Jardiance, ce qui a été l'occasion lors de ce congrès de rappeler les différentes études qui ont montré, comme je vous l'ai dit, non seulement une efficacité métabolique, mais sur la protection cardio-rénale. Et concernant les inhibiteurs des SGLT2, cette protection cardio-rénale ne se limite pas aux diabétiques, puisqu'il y a eu des études également chez les patients insuffisants cardiaques ou insuffisants rénales chroniques qui n'étaient pas diabétiques et qui tirent également un bénéfice qui est aussi important que chez les patients diabétiques. Donc, concernant les résultats métaboliques, il faut savoir que l'utilisation des inhibiteurs du SGLT2 baisse en moyenne l'hémoglobine glycée de 0,8%. Ils entraînent également une perte de poids en moyenne de 2,5 kg, ce qui n'est pas négligeable, associé à une diminution du cours de taille jusqu'à 5 cm et une diminution de 0,5 point, d'un demi-point en fait, de la pression artérielle systolique. Donc, concernant les bénéfices cardio-rénaux, une méta-analyse a été présentée donc, à la SFD, une méta-analyse des différentes études contrôlées, randomisées, réalisées sur de larges populations de patients diabétiques, à la fois en prévention primaire et en prévention secondaire. Et cette méta-analyse confirme que ces molécules diminuent ce qu'on appelle le MACE, c'est-à-dire c'est un critère composite qui comprend les décès d'origine cardiovasculaire, les infarctus non fatales et les AVC non fatales, de 10%. Et cet effet bénéfique est surtout visible chez les patients en prévention secondaire, c'est-à-dire chez ceux qui ont déjà eu un problème cardiovasculaire. Il y avait surtout une diminution des hospitalisations pour insuffisance cardiaque de 32% et une diminution du risque rénal. Alors le risque rénal, c'est le risque de doublement de la créatinine, d'évolution vers la dialyse ou de décès d'origine rénale. Et donc ce risque rénal était diminué de 38%, alors que quand on utilise les IEC ou les inhibiteurs d'angiotensine 2, on a un gain que de 20%, donc double du gain sur le risque rénal avec ces inhibiteurs du SGLT2. Donc ces études chez les patients diabétiques ont été suivies par des études, comme je vous l'ai dit, chez les patients insuffisants cardiaques ou insuffisants rénales chroniques, diabétiques et non diabétiques. Et ces études confirment leur efficacité en termes de protection cardio-rénale, que les patients soient ou non diabétiques. Donc c'est notamment le cas pour l'insuffisance cardiaque de l'étude DAPA-HF, qui a concerné donc des patients insuffisants cardiaques avec ce qu'on appelle une fraction d'éjection ABC à 31%. Et la moitié de la population de cette étude était diabétique, les autres n'étaient pas diabétiques. Et on a étudié un critère composite qui comportait l'aggravation de l'insuffisance cardiaque ou une mort d'origine cardiaque. Et il y a eu une baisse de 26% de ce critère composite, quel que soit le statut du patient, c'est-à-dire indépendamment du statut diabétique du patient, donc chez les diabétiques et chez les non-diabétiques. Il y a eu également une baisse de 30% des hospitalisations pour insuffisance cardiaque et une baisse de 17% de la mortalité totale. Dans l'insuffisance rénale, il a été présenté les résultats de l'étude DAPA-CKD qui concernait des patients insuffisants rénaux dont la clairance était comprise entre 25 et 75. Il y avait deux tiers des patients qui étaient diabétiques et un tiers qui ne l'étaient pas. Et là, pareil, on a étudié un critère composite qui était la diminution de 50% du débit de filtration glomérulaire, l'évolution vers l'insuffisance rénale terminale et le décès rénal ou cardiaque. Et il y a eu une baisse de 39% de ce critère composite dans les deux dans la population traitée, que le sujet soit diabétique ou non. Donc ces résultats devraient bien entendu permettre une extension d'AMM, puisque vous savez que ce qui nous limite actuellement avec les inhibiteurs du SGLT2, donc avec le Forxiga et bientôt aujourd'hui avec Jardiance, c'est la clairance de la créatinine. Je vous rappelle que dès que la clairance de la créatinine est au-dessous de 60, on ne peut plus les utiliser, on est obligé de les arrêter quand la clairance est au-dessous de 45. Et de par les résultats de l'étude DAPA-CKD qui montre que ça marche très bien, y compris chez les insuffisants rénaux, sans risque, mais au contraire avec un bénéfice sur le plan rénal, il devrait y avoir au mois de juin une extension d'AMM au moins concernant celui qui est le premier qui est arrivé, à savoir le Forxiga, pour les patients en insuffisance rénale dont la clairance sera entre 25 et 30 millilitres par minute. Voilà. Il devrait y avoir également peut-être des extensions d'AMM pour des patients insuffisants cardiaques non diabétiques ou des patients insuffisants rénaux non diabétiques. En tout cas, ces résultats ont bousculé la hiérarchie des recommandations internationales, puisque qu'il s'agisse de la société européenne de cardiologie, l'ESC, ou maintenant l'ADA en 2020, donc les recommandations américaines, elle positionne désormais les inhibiteurs du SGLT2 et également les analogues du GLP-1, qui ont également montré une protection cardio-rénale, en première intention chez les patients à haut risque ou très haut risque cardiovasculaire. Donc, les recommandations de l'ADA, les recommandations de l'ESC, si le patient est à haut risque ou très haut risque, ce n'est plus la metformine en première intention, mais les inhibiteurs du SGLT2 ou les analogues du GLP-1. Et si le patient, s'ils viennent en renforcement du traitement par metformine, eh bien, elles pourront être utilisées quel que soit le niveau d'hémoglobine glyquée. Donc là encore, avant on disait on intensifie uniquement si l'hémoglobine glyquée est supérieure à 6,5%. Actuellement, chez les patients présentant un risque cardio-rénal, donc à haut risque ou très haut risque cardiovasculaire, on les utilise, on renforce le traitement, quel que soit le niveau d'hémoglobine glyquée. Voilà. Dernier point qui a été évoqué, je vais passer assez rapidement quand même au vu de l'heure qui tourne. Diabète et Covid-19, pour vous dire que les études épidémiologiques ont montré bien entendu une association entre la forme sévère de Covid et l'existence d'un diabète, confirmée par les données de l'assurance maladie qui ont montré que le diabète était associé à un surrisque de 64% d'hospitalisation pour Covid et de 75% de décès en milieu hospitalier. Donc, ce surrisque chez le diabétique s'explique par une augmentation de la susceptibilité aux infections, par une réponse immuno-inflammatoire exacerbée et un risque thromboembolique plus important. Donc, le profil des patients diabétiques à risque de forme sévère, on le connaît depuis l'étude Coronado, l'étude française Coronado, qui a porté sur plus de 3000 patients diabétiques hospitalisés pour Covid. Il s'agissait dans 90% de diabète de type 2, des patients qui étaient plutôt de sexe masculin, qui avaient 70 ans ou plus, avec un diabète évoluant depuis au moins 10 ans, une obésité et des complications dans 50% des cas. Dans cette étude, l'évolution à un mois après l'admission en hospitalisation, malheureusement, on déplore 20% de décès, mais quand même, un patient sur deux a pu regagner son domicile. Et on a vu que les patients dont l'évolution était la plus défavorable, c'était les patients les plus âgés, sans surprise, et ceux qui présentaient des complications de leur diabète, notamment des complications micro-angiopathiques. Et évidemment, il a été dit et rappelé que les patients diabétiques devaient absolument se faire vacciner. Donc c'est particulièrement important d'être vacciné quand on est diabétique et notamment quand on présente ce profil à risque. Voilà. Donc, je regarde un petit peu les questions qui ont été posées durant la semaine. Je vois qu'il y en a un certain nombre auxquels j'ai répondu à travers l'exposé. Quelqu'un me parlait de l'application MyDiaby, qui n'est pas une application en fait, hein, qui est une plateforme de télésurveillance. Et cette personne, Claude, me demandait ce que je pensais de cette plateforme. Donc, j'en pense du bien, puisqu'on l'utilise dans le service d'endocrinologie pour la télésurveillance des patients qui sont sous pompe connectée. C'est une utilisation large de MyDiaby qu'on peut utiliser également dans le diabète gestationnel, donc pour les femmes enceintes. Donc j'en pense du bien. Marion me demandait si j'avais entendu parler de la montre connectée Apple qui prenait la glycémie. Donc je pense qu'elle parle de la pompe, montre Kawatch Glucose qui a été élaborée par une start-up française, PK Vitality, et qui, par le biais de micro-points qui s'enfoncent dans la partie supérieure de l'épiderme, permet, avec un capteur chimique, de mesurer le taux de glucose en continu. Alors, elle me demandait si ça avait été testé avec des pancréas artificiels. J'en ai pas à la connaissance. Donc, à ma connaissance, non. Quelqu'un me demande s'il y a du nouveau concernant la prise en charge de la neuropathie diabétique. Donc il y a du nouveau sur le diagnostic, mais malheureusement, concernant le traitement, pas de choses bien nouvelles. On ne sait pas actuellement traiter la cause de cette neuropathie, donc on ne traite que les douleurs liées à cette neuropathie. Soit actuellement les médicaments recommandés, c'est ce qu'on appelle la duloxétine ou Cymbalta, ou la gabapentine ou l'Irica, d'abord seul, puis en association si besoin, et en dernier recours, on peut l'associer à de la morphine. Mais malheureusement, pas de traitement de la cause de cette neuropathie. Arnaud me demande si l'algorithme qui calcule les besoins en insuline dans un pancréas artificiel s'adapte à l'activité physique. Alors il faut savoir que tous les pancréas artificiels ne disposent pas du même algorithme. Les algorithmes sont différents. Par exemple, dans le système Minimed 780G, c'est ce qu'on appelle un algorithme PID, c'est-à-dire un algorithme rétroactif. Alors que dans le système Tandem Control IQ et dans le Diabeloop, c'est plutôt des algorithmes prédictifs. Malgré tout, quel que soit l'algorithme, l'écueil de ces pancréas artificiels, c'est évidemment les émotions qu'on n'arrive pas, que l'algorithme n'arrive pas à vraiment appréhender, et l'activité physique. Néanmoins, des algorithmes de plus en plus intelligents sont en cours d'étude pour que justement ces algorithmes soient capables d'appréhender cette activité physique et éviter les hypoglycémies. Alors néanmoins, actuellement, en cas d'activité physique, on met en place ce qu'on appelle un objectif temporaire qui permet la plupart du temps quand même malgré tout d'éviter les hypoglycémies. Alors concernant il n'y a pas eu de question là-dessus, mais concernant les pancréas artificiels, sachez que, parce que beaucoup aimeraient mettre un pancréas artificiel, mais sont attachés à leur pompe patch, à l'Omnipod. Alors sachez que il y a un système avec l'Omnipod de pancréas artificiel, qui est le système Omnipod 5, avec un algorithme qui est hébergé dans la pompe Omnipod, et le Dexcom G6. Malheureusement, système a pris du retard par rapport aux autres et sa commercialisation devrait intervenir plutôt en 2022.
Nous sommes ravis de vous avoir accompagné pendant toute cette écoute. Si ce podcast vous a plu, merci de laisser un avis 5 étoiles sur iTunes. Suivez-nous sur notre page Facebook Diabète66 en posant directement vos questions qui seront abordées dans nos prochaines émissions. Rejoignez-nous également sur notre groupe Facebook Diabétique, le groupe de discussion, pour échanger avec nos 9000 membres. Retrouvez-nous également sur Instagram et Twitter. Merci à toutes et tous pour votre écoute et à la semaine prochaine.